Il est midi et demi sur France Culture. Tout de suite, c'est l'heure pour vous de retrouver Thomas Cluzel pour le journal. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. En Italie, la voie semble désormais ouverte pour un gouvernement de coalition, mouvement 5 étoiles, parti démocrate, dans le plus pur style de transformisme politique de la péninsule. Une alliance toutefois fragile, d'autant que le patron de la Ligue d'extrême droite s'apprête lui à passer à l'opposition et réclame toujours des élections.
Le président brésilien pourrait se rendre cette semaine en Amazonie pour évaluer les mesures engagées dans la lutte contre les incendies qui ravagent la forêt tropicale.
Et Jair Bolsonaro qui a rejeté par ailleurs l'offre d'aide des pays du G7, lesquels ont proposé de débloquer au moins 20 millions de dollars.
Dans votre journal également, quand l'exécutif se résout à la méthode douce sur les retraites en France.
Hier soir, Emmanuel Macron a marqué effectivement sa préférence pour un accord avec les partenaires sociaux sur la durée de cotisation, une préférence qui s'inscrit à rebours des préconisations du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, lequel recommandait dans ses préconisations endossées par Matignon l'instauration d'un âge pivot à 64 ans. Enfin, pour sa troisième rentrée, Jean-Michel Blanquer donnait ce matin sa traditionnelle conférence de presse, l'occasion pour le ministre de l'Éducation de réaffirmer les priorités du gouvernement. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Francette Popineau, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIPP FSU. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Où va la Grande-Bretagne en plein Brexit, toujours et encore? D'ailleurs, que va-t-il se passer? Et surtout, comment en est-on arrivé là? On en parlera avec notre invité, la chercheuse Pauline Schnapper, qui publie chez Odile Jacob avec Emmanuel Avril, Où va le Royaume-Uni, le Brexit et après.
Merci et à tout à l'heure. Si le club des dirigeants qui porte un discours anti-système aux accents parfois populistes ne cesse de grossir jusqu'à bousculer la diplomatie mondiale au détriment de la coopération internationale, il est un pays ce matin où les prochaines heures devraient s'avérer décisives et permettre ainsi de répondre à cette question. Est-on à l'aube d'un nouveau populisme ou au contraire à son crépuscule? En Italie, les discussions se poursuivent pour sceller un accord sur la formation d'un nouveau gouvernement. Or, si mathématiquement une autre majorité gouvernementale au Parlement semble possible, toutes les options restent encore envisageables, compte tenu à la fois des divisions internes à la gauche, du morcellement à l'œuvre au sein du mouvement anti-système 5 étoiles, sans oublier bien sûr la popularité actuelle de la Ligue d'extrême droite. Seule certitude, aucune majorité n'est aujourd'hui possible. Sans compter que le sort de Giuseppe Conte constitue aujourd'hui le principal obstacle à la constitution d'une coalition alternative, du moins était-ce encore le cas hier, jusqu'à ce que le Parti démocrate ne décide finalement de lever son veto à la reconduction de l'ancien Premier ministre à la présidence du Conseil, plaçant ainsi la formation de centre-gauche et le mouvement anti-système 5 étoiles aux portes d'un accord pour former une nouvelle coalition. Les précisions à Rome de notre envoyée spéciale Isabelle Labéry.
Effectivement, il n'a été question que de ça au cours de la longue réunion nocturne qui a rassemblé les dirigeants des deux partis. Faut-il faire revenir Giuseppe Conte à la tête du nouveau gouvernement? C'est l'une des exigences des 5 étoiles, vous le savez, à laquelle il y a quelques jours encore, les démocrates mettaient leur veto parce qu'à leurs yeux, l'ex-président du Conseil ne s'est pas montré assez offensif face au diktat anti-migrant de Matteo Salvini et son discours de démission en forme de réquisitoire la semaine dernière n'y change rien. Alors s'ils sont prêts aujourd'hui à céder, c'est bien entendu en échange de garanties sur la composition du gouvernement. Et la partie de poker a commencé. Ce matin, les 5 étoiles ont annulé au dernier moment une nouvelle séance de discussion avec les démocrates. S'ils ne disent pas oui à Conte, ça ne sert à rien de se voir. Dans leur communiqué, Luigi Di Maio et ses conseillers ne sont pas tendres avec leurs potentiels partenaires. Leurs idées sont confuses, ils ne nous parlent que de postes et de ministères sans évoquer les sujets de fond. Ça ne va pas du tout. Dans une phase aussi délicate pour le pays, nous n'avons pas de temps à perdre. Pendant que les discussions patinent, Matteo Salvini, lui, enchaîne les conférences de presse et les déclarations contre ses anciens alliés. « Regardez bien comment ils retournent leur veste », disait-il hier soir. « C'est un très bel exemple », ajoutant ce matin avec emphase sur son compte Twitter, « L'honneur et la liberté valent plus que 1000 ministères ».
Voilà une sulfureuse affaire qui, à l'époque, avait entraîné une dégradation spectaculaire des relations entre l'administration Obama et le Kremlin. La mort, en 2009, dans une prison russe d'un juriste, Sergueï Magnitsky, lequel avait été arrêté après avoir dénoncé une machination financière ourdie, selon lui, par des responsables de la police et du fisc au détriment de l'État russe. Selon les services pénitentiaires, L'homme âgé alors de 37 ans avait succombé à un malaise, une version rejetée par sa mère et sa sœur qui accusent les autorités russes de l'avoir détenu dans des conditions épouvantables et de ne pas lui avoir prodigué les soins que son état de santé exigeait. Or ce matin, la Cour européenne des droits de l'homme semble enfin leur avoir donné raison. Dans un arrêt très attendu, la CEDH a en effet décidé de condamner lourdement la Russie. La Cour estime que Moscou s'est rendu coupable de violations du droit à la vie, de traitements inhumains, de détentions arbitraires et de violations du droit à un procès équitable. On reste en Russie où le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu aujourd'hui pour y rencontrer son homologue Vladimir Poutine. Une visite surprise sur fond de conflit syrien et qui survient après des avancées sur le terrain des forces loyales au président Bachar el-Assad. Force soutenue, je vous le rappelle, par la Russie au point d'accentuer à présent les tensions avec la Turquie, opposée elle au régime de Damas et qui soutient plusieurs groupes rebelles syriens. Cette confrontation se trouve notamment exacerbée dans la région d'Idlib, censée être protégée par un accord sur une zone démilitarisée pour séparer les zones gouvernementales des territoires djihadistes et insurgés. Sauf que la semaine dernière, un convoi militaire turc a été pris pour cible par l'aviation syrienne. Les précisions depuis Istanbul d'Anne Handlauer.
La situation à Idlib est suffisamment urgente pour que Recep Tayyip Erdogan ait décidé de se rendre en personne à Moscou après l'échec d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine la semaine dernière. Le président turc veut que le régime de Bachar el-Assad, appuyé par son allié russe, cesse ses bombardements sur Idlib, zone censée être démilitarisée depuis un accord russo-turc signé à Sochi il y a un an. L'offensive des dernières semaines met en danger la sécurité des soldats turcs déployés dans la région sur 12 postes d'observation. L'un d'eux, celui de Morek, est même encerclé clé par l'armée syrienne. Moscou, de son côté, accuse la Turquie de ne pas respecter l'accord conclu l'année dernière. Ankara devait assurer le départ d'Idlib des groupes rebelles et djihadistes avec leurs armes lourdes. Vladimir Poutine estime que Recep Tayyip Erdogan n'a pas tenu parole et tente, sans le dire encore ouvertement, de pousser la Turquie hors d'Idlib pour permettre sa reprise totale par le régime syrien. Un scénario catastrophe pour le président turc qui craint que des centaines de milliers de réfugiés n'affluent vers sa frontière. Recep Tayyip Erdogan vient donc dire à son homologue russe que son pays ne se désengagera pas d'Idlib pour l'instant et qu'il souhaite le maintien sous une forme ou une autre de l'accord de Sochi. Les présidents russes, turcs et iraniens doivent d'ailleurs se rencontrer à Ankara le 16 septembre pour tenter de sauver ce qu'il reste de cet accord.
Benjamin Netanyahou appelle le Hezbollah et le Liban à prendre garde à leurs actions. Le premier ministre israélien s'exprimait ce matin, 48 heures après les propos tenus par le chef du mouvement chiite libanais, lequel a promis une riposte contre l'État hébreu. La veille, Netanyahou, actuellement en campagne pour les législatives du 17 septembre prochain, avait déjà prévenu que son pays était prêt à se défendre par tous les moyens nécessaires face à la République islamique d'Iran. Alors que les incendies qui ravagent l'Amazonie continuent d'asphyxier chaque jour un peu plus le poumon de la planète, Jair Bolsonaro préfère, lui, cracher sur l'aide d'urgence de 20 millions de dollars décidée par les dirigeants des pays du G7 sur le même ton acrimonieux que ses précédentes attaques personnelles, en particulier contre Emmanuel Macron, le président brésilien d'extrême droite climato-sceptique assumé, s'est contenté de conseiller au président français de s'occuper, je cite, de sa maison et de ses colonies. Personne n'a besoin d'une nouvelle initiative sur l'Amazonie, a encore abondé le chef de la diplomatie brésilienne. Quoi qu'il en soit, les renforts militaires envoyés ce week-end par les autorités brésiliennes pour lutter contre les incendies continuent à se renforcer. Et c'est le cas en particulier dans la région du Rondônia, où des centaines d'hommes sont arrivés prêts désormais à s'enfoncer dans la forêt tropicale pour empêcher les flammes de progresser, comme a pu le constater sur place notre envoyé spécial Mathieu Mandoloni.
Ça commence par une prière. Disposés en cercle, main dans la main, les militaires écoutent en silence le serment du sergent Santana. Il en appelle à Dieu, à Jésus, leur sauveur, dit-il. Seigneur, merci pour cette mission. Merci de nous permettre de lutter pour l'Amazonie, pour notre peuple et pour notre pays. Ces 16 hommes sont arrivés dimanche de tout le Brésil pour prêter main forte aux pompiers de la région.
Ces 4 voitures vont partir en direction de la commune de Buritis. N'oubliez pas de vérifier encore une fois votre matériel personnel ainsi que le matériel anti-incendie.
Le colonel Pérez, qui dirige cette compagnie de la Force Nationale, fait un dernier point avec ses hommes.
Nous déployons 4 groupes dans la ville de Buritis. Ils sont attendus par l'armée et les pompiers dans la région de Rondônia. Ensuite, ils iront tous ensemble dans la forêt pour combattre les incendies.
Les 4x4 démarrent, ils quittent Porto Velho. Sur la route, des terres calcinées succèdent aux paysages de forêt tropicale. Les voitures roulent vite et ne s'arrêtent que 3 heures plus tard et 200 km plus loin. L'orage gronde, Impossible de s'enfoncer davantage dans la forêt. Ils vont passer la nuit dans une petite ville. Dehors, la pluie commence à tomber. Une aide précieuse et inattendue pour les militaires de la Force nationale.
Un reportage dans la région du Rondônia au Brésil, signé de notre envoyé spécial Mathieu Mondoloni. Quand un président disruptif peut en cacher un autre, sens des concessions mutuelles et alchimie personnelle. Quant à Biarritz, Emmanuel Macron aura su éviter l'écueil des obstacles diplomatiques. Donald Trump se sera lui montré radieux aux côtés de son hôte, mais plus encore, le locataire de la Maison Blanche aura surtout pris tout le monde à contre-pied en mettant de côté ses menaces sur la guerre commerciale avec la Chine. Tout d'abord, le président s'est montré un brin conciliant. Et puis toujours à la surprise générale, Donald Trump a également annoncé une pause dans sa stratégie de pression sur l'Iran, acceptant même le principe d'une rencontre avec son homologue iranien. Reste que tous ces acquis devront évidemment encore être précisés. La très courte déclaration finale n'a d'ailleurs été assortie d'aucune garantie ni calendrier. Toujours est-il que sur le papier donc, le bilan de ce G7 qui s'annonçait pourtant délicat est plutôt positif. Et c'est ainsi notamment que pour leur traditionnelle conférence annuelle, les ambassadeurs français étaient attendus ce matin à l'Elysée par un Emmanuel Macron auréolé d'un sommet réussi. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes sur place à cette conférence qui n'est toujours pas terminée, je crois. Que peut-on d'ores et déjà en retenir, Louise ?
Déjà que ce succès, oui, il existe. Un succès qui a même poussé Emmanuel Macron à s'interroger. Devait-il vraiment faire ce discours devant les ambassadeurs ? Hésitation confiée d'entrée de jeu. Il faut dire que le président a beaucoup parlé hier, pas moins de 4 interventions publiques pour faire le bilan et se féliciter donc d'un G7 utile et réussi. Seul l'avenir dira s'il est un succès complet, a-t-il réaffirmé tout à l'heure. Mais le rendez-vous de Biarritz est d'ores et déjà une réussite devant les ambassadeurs. Le président a expliqué la démarche qui, selon lui, a sous-tendu ce G7, mais aussi son action internationale depuis 2 ans. Il veut mettre la France au cœur du jeu diplomatique, la faire peser dans un ordre du monde bouleversé avec les cartes qui sont les nôtres, dit-il, grâce à une stratégie de l'audace, de la prise de risque. Ça ne réussira peut-être pas, ce n'est pas grave. Ce qui est mortel, c'est de ne pas essayer de faire de la France une puissance d'équilibre.
Quand je dis que nous devons être une puissance d'équilibre, ça veut dire que nous devons, en quelque sorte, avoir la liberté de jeu, la mobilité, la souplesse. Nous ne sommes pas une puissance alignée. Je le dis ici avec beaucoup de force. Nous avons des alliés, nous sommes européens, et nous devons travailler avec nos partenaires européens en les respectant. Nous avons des alliés dans chaque région du monde, et nous avons un allié important que sont les États-Unis d'Amérique sur le plan stratégique et militaire. Mais, pour le dire en termes simples, nous ne sommes pas une puissance qui considère que les ennemis de nos amis sont forcément les nôtres, ou qu'on s'interdit de leur parler.
Le président invite notamment les ambassadeurs à repenser la relation avec la Russie. Jamais, dit-il, l'Europe ne sera en sécurité si nous ne pacifions pas nos relations avec elle. L'Europe qui doit enfin construire sa souveraineté, notamment sur le plan de la défense. Le président qui est encore en train de parler à l'heure qu'il est, sur le plan européen, justement, il ne devrait pas révéler ce midi l'identité du futur membre français de la Commission de Bruxelles. Le nom de ce relais d'influence indispensable devrait toutefois être communiqué dans la journée.
Merci Louise Baudet en direct de l'Élysée ainsi qu'à Lucien Lefebvre pour les moyens techniques. Alors après la séquence internationale du G7, l'exécutif fait lui sa rentrée sur le plan intérieur avec tout d'abord la conférence de presse de rentrée scolaire du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Nous y reviendrons dans quelques instants avec notre invité. De son côté et juste avant la rentrée des élèves, Matignon souhaite pour sa part insister sur la thématique écologique. C'est ainsi que le Premier ministre a choisi de réserver son premier déplacement après les vacances à Roubaix dans le Nord, un territoire innovant terme de gestion des déchets. Ce sera jeudi. Et puis dès ce matin, Édouard Philippe recevait 19 organisations à l'initiative du pacte du pouvoir de vivre, dont les deux figures de proue ne sont autres que l'ancien ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot, dont la démission fracassante du gouvernement avait eu lieu il y a quasiment un an jour pour jour. Et puis Laurent Berger, le patron de la CFDT. Ce collectif a mis en exergue 8 mesures d'urgence, comme interdire la location de logements indignes et de passoires énergétiques, mais aussi revaloriser les minima sociaux et les faire évoluer au même rythme que les revenus du travail. Une manière donc pour l'exécutif d'affirmer à quelques jours d'un séminaire gouvernemental et du bouclage des textes financiers qu'il existe encore une marge de négociation, même si en l'occurrence rien de concret ne devrait être annoncé à l'issue de cette réunion. Preuve, là encore, que le gouvernement et le chef de l'État ont visiblement choisi de placer cette rentrée sous le signe de la concertation. Emmanuel Macron a surpris hier soir en changeant de pied sur les paramètres du futur chantier des retraite. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
En consentant à une grande négociation, on imagine que l'exécutif a choisi d'avancer à pas mesurés pour s'épargner peut-être une nouvelle crise sociale après le mouvement des Gilets jaunes. Reste, Anne-Laure, que si Emmanuel Macron a clairement choisi la voie de l'apaisement, il le fait désormais au risque de la contradiction.
Oui, car il torpille en partie les recommandations faites par le haut commissaire en charge des retraites. Emmanuel Macron a ainsi expliqué hier soir qu'il préférait un allongement de la durée de cotisation à l'âge d'équilibre fixé à 64 ans. Or, cet âge pivot, assorti d'une décote, c'était l'un des points centraux du rapport présenté par Jean-Paul Delevoye mi-juillet. Oui, mais voilà, l'exécutif ne veut pas rater sa rentrée sur le front social. Il y a quelques jours, des réunions bilatérales prévues à Matignon sur cette question des retraites. Il a besoin d'un partenaire côté syndical, en l'occurrence la CFDT, avec qui les relations ont été compliquées depuis le début du quinquennat. Le premier syndicat français est favorable au régime de retraite par points, mais il avait critiqué cet âge d'équilibre identique pour tous. En revanche, cette main tendue d'Emmanuel Macron ne va pas faire bouger les lignes du côté de FO et de la CGT, hostile au principe même de la réforme. Pour Catherine Perret, en charge de ce dossier des retraites à la CGT, cette proposition ne constitue pas du tout une avancée.
Rentrer par la durée de cotisation ou mettre en place un âge d'équilibre avec une décote avant 64 ans, ça revient exactement au même. Donc c'est vraiment une communication du président de la République qui est destinée à endormir les Français. Et pour nous, ça peut même être encore plus grave, parce que quand on sait qu'aujourd'hui les jeunes rentrent sur le marché du travail très tardivement, en moyenne à 27 ans, pour un emploi stable, si vous calculez 27 ans plus 43 ans de cotisation de retraite obligatoire, vous tombez pas à 62 ans.
Alors à l'inverse, ceux qui ont commencé tôt pourront partir plus tôt à la retraite en ayant une pension à temps plein. Le sujet n'a pas fini de rebondir, car la concertation avec les partenaires sociaux, les élus et les Français va durer plusieurs mois.
Merci Anne-Laure Jumet. Alors, outre les retraites, la rentrée se cristallisera aussi sur le projet de loi bioéthique et en particulier la PMA pour toutes, susceptible de réveiller le camp conservateur. Les 72 députés de la commission spéciale ont débuté ce matin leurs auditions pour entendre tous les points de vue sur la question. Enfin, je l'évoquais tout à l'heure, donc la rentrée est aussi et surtout synonyme de reprise pour les élèves et les professeurs. Ce matin, lors de sa conférence de presse rituelle, le ministre de l'Éducation en a profité pour défendre à nouveau ses réformes menées au pas de course depuis son arrivée rue de Grenelle. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Jean-Michel Blanquer a notamment réaffirmé la priorité donnée à l'école primaire, mais aussi promu sa réforme du bac, dont la mise en œuvre au lycée cette année, on le sait, suscite de nombreuses inquiétudes.
Oui, une rentrée placée sous le signe de l'apaisement, avec un changement de ton de la part du ministre de l'Éducation, après la grève des correcteurs du bac en juillet et les manifestations du printemps contre sa loi.
Pour moi, il est largement le temps de tourner la page de cette ambiance qui a été créée, pas par moi, au mois de juin-juillet. Tout ce que je vous ai dit sur ce dialogue social approfondi doit nous permettre de peut-être passer à autre chose sur ces questions.
Une rentrée est placée également sous le signe de l'écologie, avec une conférence de presse organisée cette année dans les jardins du ministère de l'Éducation, au pied d'un arbre bicentenaire de 250 ans, avec tout de même des mesures concrètes mises en place dès la rentrée. Jean-Michel Blanquer.
On ne doit plus du tout parler de mammouth. Nous sommes un peuple de colibris. Ça va être l'existence d'éco-délégués dans chaque classe, ça va être le développement en lien avec les collectivités locales de potagers, de ruches, de perchoirs à oiseaux, la revégétalisation, le tri des déchets. Bref, c'est donc un sujet très important.
Autre nouveauté, la lutte contre les violences scolaires, notamment pour les élèves les plus violents d'entre eux, qui sont environ 1500. Jean-Michel Blanquer.
Ces élèves vont faire l'objet d'un suivi particulier. Et en particulier, désormais, l'inspecteur d'académie pourra d'office affecter dans une classe relais, c'est-à-dire une institution spécifique, classe ou école relais, l'élève qui a été exclu deux fois dans l'année et qui pose des problèmes de violence.
Enfin, sur la réforme du bac qui va entrer en vigueur dès la rentrée pour les élèves de première, le ministre a confirmé un comité de suivi et des discussions entre enseignants avec éventuellement des évolutions apportées durant l'année.
Voilà, et pour continuer donc d'évoquer ce sujet, invité de la rédaction aujourd'hui est Françoise Popineau, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIPP-FSU. Bonjour madame.
Bonjour.
Une première question avant de céder la parole à Hakim Kasmi. Votre fédération a eu l'occasion hier de s'entretenir avec le ministre. Vous a-t-il paru ouvert à la discussion ?
Oui, on le rencontre aussi cet après-midi au titre du premier degré. Oui, effectivement, comme vous le dites, le ton a changé. Il y a un costume de rentrée qui est mis et qui, effectivement, tient compte du conflit qui a eu lieu au printemps et de la considération que réclament les enseignants. Donc, effectivement, écouter les personnels, associer les représentants à la bonne marche de l'éducation, c'est effectivement une belle résolution de rentrée. Maintenant, il faut tenir ces résolutions. On sait bien que c'est compliqué, les résolutions de rentrée, de les tenir.
Alors, question d'Hakim Kasmi.
Les résolutions, passer de la parole aux actes. Alors, en ce qui concerne le primaire, on va beaucoup en parler cette année. Il y a notamment 2300 postes de plus. Seront-ils suffisants pour mettre en place les mesures, comme notamment le dédoublement, qui cette année sera en CP et en CE1, en REP et en REP+.
Alors, je pense que vous le savez aussi, les chiffres parlent et nous disent que c'est compliqué effectivement d'arriver au bout de la mesure de dédoublement, puisque ça pose aussi des questions de locaux. Donc il y a ici ou là des bricolages qui font que effectivement on a deux enseignants dans une classe. On a aussi des jeunes collègues qui sont nommés sur ces classes-là. Donc on a encore beaucoup de choses à voir sur les dédoublements. Les dédoublements, on l'a vu, c'est un facteur de réussite. Évidemment, puisque on agit sur les effectifs de classe, mais le ministre lui-même le dit, ça ne suffit pas. Il faut aussi des enseignants correctement formés et il faut aussi pouvoir recruter des enseignants qui sont formés et qui ont le concours, ce qui veut dire aussi qu'il va falloir augmenter les salaires.
Alors les salaires, justement, c'est l'un des gros dossiers. Il y aura 1 milliard d'euros supplémentaires cette année dans le budget du ministère de l'Éducation, en grande partie pour les salaires, sauf que ces augmentations, elles vont notamment servir, en fait, notamment, eh bien, pour la cotisation sur les retraites.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas la ventilation de cette somme. Donc, il faut effectivement voir où va cette somme. Il faut s'enlever de l'idée que ça va constituer une augmentation substantielle pour les enseignants qui sont très nombreux, puisqu'ils sont 350 000 dans le pays, en ce qui concerne le premier degré déjà. Donc, effectivement, il faut connaître la ventilation de cette somme. Et comme vous le dites, elle va être surtout consacrée au départ à la retraite, qui sont nombreux.
Alors, autre annonce aujourd'hui, ce matin, lors de la conférence de presse de rentrée, elle concerne l'accompagnement des élèves en situation de handicap, c'est ce qu'on appelle les AESH. Le ministre a annoncé 4500 postes supplémentaires. Cela sera-t-il suffisant quand on sait qu'aujourd'hui, dans les classes, un AESH peut avoir, ainsi qu'une institutrice, 4 à 5 élèves en situation de handicap, avec à chaque fois des handicaps différents?
C'est-à-dire que là aussi, nous avons une vision différente avec le ministre. Il a une vision gestionnaire, donc il essaie de faire coller le nombre d'élèves en situation de handicap qui nécessite un accompagnant et le nombre d'accompagnants. C'est la première chose à faire, en effet. Mais pour y arriver, car on sait que ce métier est peu attractif, le métier d'accompagnant, hein, puisque effectivement, malgré quelques avancées, le salaire est très bas, les conditions d'exercice ne sont pas simples. Il y a très peu de formation et surtout ce n'est pas un métier reconnu. Donc il faut activer cet aspect-là. On a une loi qui a 15 ans, donc il faut maintenant aller plus vite dans ce domaine. Et donc effectivement, les AESH seront en nombre supérieur. Est-ce que ce sera suffisant? On le verra à l'arrivée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mutualisation va sans doute poser des problèmes ici ou là, si on ne part pas du projet de l'enfant et de ses besoins. Un enfant qui a une difficulté, qui est en situation de handicap et qui doit être accompagné sur les activités physiques, par exemple, si la mutualisation porte, on a son accompagnant le matin, mais on l'a pas l'après-midi, ça ne va pas correspondre à son projet. Donc il faut partir impérativement du projet de l'enfant. J'ai peur que la vision du ministre aujourd'hui ne soit qu'une vision gestionnaire.
Alors, autre volet à porter aujourd'hui, c'est la formation. Il n'y a plus les instituts supérieurs du professorat, mais désormais les ISPE, les instituts nationaux supérieurs du professorat. Concrètement, en termes de formation, qu'est-ce que cela va vraiment changer ?
On se le demande. Parce que effectivement, nous avons dans ce pays une formation initiale qui se fait au pas de course. Vous savez que sous un certain gouvernement, elle avait d'ailleurs été supprimée, car on estimait que ce n'était pas un métier qui s'apprenait. Or, d'autres pays, en revanche, consacrent 4 à 5 ans pour former leurs enseignants. Nous pensons qu'il est très important d'avoir une formation solide, avec des stages qui sont progressifs, d'abord des stages
stages, effectivement, où on va observer une classe, ensuite des stages où on va prendre en main une séance sous la responsabilité d'un enseignant qui nous observe et d'un tuteur. Et puis ensuite, progressivement, nous prenons la responsabilité de classe. On va bien trop vite. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on repousse le concours. On va mettre les enseignants un an plus tard en fonctionnaire stagiaire. Donc, un an plus tard, ils auront 1400 euros pour débuter et ne seront pas mieux formés. Il faut vraiment travailler cette formation. Le ministre ouvre ce dossier et je crois que nous serons, nous serons très présents sur ce dossier. C'est essentiel pour l'avenir de ce métier.
Et on terminera par ces mots. Merci, Françette Popineau, co-secrétaire générale, je le rappelle, porte-parole du SNUIPP-FSU, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Hakim Kasmi. On termine avec un mot de météo. Le temps va se dégrader cet après-midi dans le sud-ouest. Le ciel restera gris sur le pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, le ciel se partagera entre nuages et soleil. Quant aux températures, elles afficheront entre 21 et 36 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.